Mon cher Maxime, bonsoir. Allô Maxime ?
Oui, allô ?
Oui, comment allez-vous Maxime ?
Très bien, mon cher Yann, je vous remercie.
Mais ça fait longtemps.
Ça fait longtemps, je vous écoute tout de même, mais je n'appelais pas. Et là, le sujet de ce soir m'a interpellé à plusieurs niveaux. Du coup, bon, je vais être obligé de parler un tout petit peu de moi.
Ah ben non, mais vous êtes là pour ça, les auditeurs sont là pour ça, hein, pour incarner des situations concrètes. Hein.
Alors c'est pour ça que je me livre à cet exercice, mais je pars de mon cas pour arriver à autre chose, évidemment, parce que si c'est juste pour parler de moi, à ce moment-là, je vous appelle pas, je vais voir un psy, c'est mieux. Hein. Donc actuellement, je suis au RSA, je vis dans un logement de 18 mètres carrés, c'est un foyer à Doma, donc j'ai mon studio, je suis peinard, et puis surtout, ils ont compris que, contrairement à d'autres, je connaissais les lois et il a fallu que je les remette en place plusieurs fois, donc ils ne me font pas suer, pour rester poli. Mais enfin, ça fait tout de même 10 ans que j'attends d'avoir un logement dans un quartier correct dans ma propre ville. J'habite à Clamart, dans les Hauts-de-Seine.
Oui.
Près de Paris, hein, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. J'attends. Alors, le problème, c'est que j'ai 45 ans, je ne suis prioritaire en rien. Je ne suis pas une femme et je comprends qu'une femme soit prioritaire. Je ne suis pas enceinte et ça, je pourrais faire tous les efforts que je veux, ça ne changera pas. Je ne suis pas tout jeune, donc en état de faiblesse, et je ne suis pas un four vieux. Donc voilà pour.
Vous êtes en train de dire que vous n'avez aucun, je mets 1000 guillemets à ça, c'est pour aller vite, aucun handicap qui vous permet d'accéder à des privilèges.
C'est justement ce qui me handicape pour
ne pas en avoir. Vous savez que le pianiste Thelonious Monk se mettait des grosses bagues au doigt pour se trouver lui-même un handicap parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas de style quand il n'était pas empêché.
Très intéressant. Un peu du masochisme.
Non, il trouvait que
il fallait. Bas, ça devait être génial.
Il pensait qu'un artiste devait surmonter un handicap. Exemple, Ray Charles qui est aveugle, un très grand sculpteur qui s'appelle Jean Dinho, brésilien, qui avait des moignons à la place des doigts et qui s'attachait des burins aux poignets pour sculpter. On pourrait citer des millions d'artistes qui ont comblé. Django Reinhardt qui a trouvé son style une fois qu'il a eu 3 doigts en moins. On pourrait généraliser cette façon de voir qui est que, à partir d'un empêchement, dans un art ou dans un sport, même parfois dans une science, on peut créer un univers inédit et finalement trouver son style. Mais c'est un autre sujet de débat qui peut être intéressant. Je vous rends la parole.
Passionnant, philosophiquement.
Philosophiquement,
très, très, très intéressant, oui. Alors donc, maintenant que j'ai parlé de mon petit cas personnel, j'ai un handicap, mais pas un handicap favorable. Je connais très bien le maire, on se tutoie, on a commencé, j'ai fait de la politique dans ma ville et on a commencé à militer ensemble, donc on se tutoie, etc. Donc bien évidemment, par élégance, je ne l'ai jamais sollicité, je ne lui ai jamais parlé de ce problème.
Je vous laisse en compagnie de Thomas Victor et Héra, je vais chercher un whisky, je reviens.
Allez-y, mon cher Yann. Alors maintenant que j'ai parlé de moi, je vais venir au pays, à la France, parce que l'économie, c'est un sujet complètement transversal, hein, central dans la vie d'un pays et de ses citoyens. Ça impacte tout le monde. Alors pour moi, les économistes sont souvent des gens qui sont capables de nous expliquer pourquoi ils se sont trompés quelques années plus tôt. Pour moi, ils sont obsolètes dans leur façon de penser. Ils ont un logiciel intellectuel qui date des années 80 et qui a été conçu dans les années 60. C'est-à-dire en plein dans
Pas tous, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais pas tous, mais c'est vrai ce que vous dites.
Surtout interrompez-moi et corrigez-moi.
Non, par exemple, je vous donne un exemple.
Vous êtes en désaccord, hein.
Vous avez raison. Là, vous avez raison. Par exemple, il y a plein d'économistes qui nous ont dit qu'il faut déréglementer le système financier, tout va bien se passer, vous allez voir, ça va se remettre en place. 2008, les banques sont tombées quasiment les unes après les autres. Et il y a même des économistes très bons qui ont dit que ça ne tomberait jamais, dans des très bons journaux d'économistes, disaient que ça ne tomberait jamais. C'est tombé.
Ils étaient dit très bons.
Voilà, mais donc vous avez raison. Mais après, il y a quand même par exemple, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, des économistes atterrés, quand vous lisez ce qu'ils ont dit, sur plein de choses, ils ne se sont pas trompés depuis 2010. Hein. Ils ont dit, voilà, politique qu'on met en place en Europe, ça va être la catastrophe. L'ISF qu'a mis en place Macron, ça va pas créer de l'investissement, ça a été le cas. Donc, en fait, les économistes qui parlent beaucoup, ils se trompent souvent. Les autres, moi, j'ai l'impression qu'ils se trompent un peu moins.
C'est vrai que quand on reste silencieux, on dit moins de conneries en même temps. Hein.
D'accord. <ouais.
rire> Bon, c'était pour la formule.
Ouais, ouais.
Mais on ne s'aperçoit pas que le système économique, pour moi, mais n'hésitez pas à me dire que j'ai tort, car c'est dans le débat que, que les choses sont intéressantes, pas dans le monologue.
Bien sûr.
Donc on s'aperçoit que ce système économique est, d'après moi, périmé depuis plus de 30 ans. Voire
quel
40,
système économique 30. De quel système économique vous parlez?
Alors je vais y venir. On a manqué pour moi le virage de la transition d'un système productiviste afin d'équiper les ménages.
Mais plus j'ai pris de la guerre, c'était
parfaitement souhaitable. On fabriquait des produits à l'époque de très bonne qualité. Et puis l'obsolescence programmée et l'obsolescence psychologique via la publicité s'en sont mêlées. Il faut quand même se rappeler qu'on a payé des ingénieurs pour faire des ampoules, le fameux cartel des ampoules qui date de 1920, et puis ensuite les banylons dans les années 60. On a payé des ingénieurs pour fabriquer des trucs de moins bonne qualité pour en vendre plus.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Vous pouvez interrompre Maxime quand vous le souhaitez, parce que Maxime est un ami.
Non, mais il a raison, Maxime, c'est vrai.
Vous avez le droit de l'interrompre, parce que quand il est lancé, il y va.
L'obsolescence programmée, c'est un scandale.
Pendant que vous étiez absent, Yann, j'ai dit surtout interrompez-moi, dites-moi que j'ai tort.
Non, mais là, quand il parle, moi j'ai une expérience personnelle où tu vois qu'on vit vraiment dans un monde complètement fou. Là, je rebondis sur ce qu'a dit Maxime. Là, en fait, j'ai changé un peu mon intérieur. Ma télé, j'avais une très vieille télé, mais alors vraiment, les. Les télés que j'avais dû acheter en 2000, mais qui tenaient encore 20 ans après, vraiment, qui commençaient à prendre de la place. Et j'ai dit,
ça dure 3 ans maintenant.
Voilà, et ben, j'ai voulu en racheter une autre. Déjà, il n'y avait que des écrans, mais très très grands. Il y avait le taux de réparabilité. Il était extrême. Il y a marqué maintenant.
Taux de réparabilité.
Ouais. Et ils m'ont dit, oh, 40%, ils m'ont dit. Il me dit en fait quand c'est cassé, grosso modo, il y a très peu de chances de le réparer. Et en fait, ils te disent maintenant, ouais, il faut le changer tous les 5 ans, quoi. C'est très fragile. Alors tu payes une télé, et puis que des écrans, alors, des télés à plus de 700 balles, hein, c'est des trucs que j'ai halluciné. Je veux dire, quand je l'ai vue dans le magasin, la télé, je trouvais qu'elle avait une taille normale, mais quand je l'ai ramenée dans mon salon, elle est immense en fait.
Elle a bouffé tout le salon.
Et donc on est quand même dans ce système-là maintenant, où
l'obsolescence est aussi un bien de consommation.
On le voit bien avec l'iPhone.
Oui, mais également d'ailleurs l'obsolescence via la publicité. On sort un nouveau modèle, donc psychologiquement, celui qu'on a, c'est un vieux truc.
Est-ce que vous savez pourquoi c'est comme ça, en fait? Parce que...
Les gens renouvellent leurs produits.
Mais pourquoi ils font ça? Parce que dans le monde, en fait, les consommateurs qui ont les moyens, ils sont très peu nombreux. C'est les Européens, les Américains, quelques riches après dans les pays. Et comme ces gens-là ont tout, il faut absolument renouveler leurs besoins.
Sinon, ils se lassent. Ils se lassent.
Voilà. Alors,
c'est vraiment ça, la raison. Je la trouve... Alors là, pour la première fois, je vais vous envoyer un scud. Je vous aime beaucoup, hein, c'est pas du tout méchant. Je trouve que cette explication pas complètement satisfaisante.
Ah bon, pourquoi?
Mais je sais pas, parce que elle me semble intellectuellement, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse programmer une obsolescence pour faire plaisir à quelques-uns. Ça me semble démentiel, monstrueux.
Mais c'est quelques-uns qui ont quasiment, je sais pas moi, les deux tiers de la richesse mondiale. C'est-à-dire en fait que vous avez, le continent africain, c'est un continent où il y a énormément de gens. Et pourquoi il n'y a pas à Brazzaville un magasin Nike de 4 étages comme aux Champs-Élysées? Tout simplement parce que les gens n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Donc ils n'intéressent pas les gens. Et voilà. Et par contre, dans des pays où il va y avoir une classe moyenne qui va arriver, etc., là tout de suite, il va y avoir les grandes entreprises. Parce qu'il y a possiblement une consommation captive.
Il y a un marché de la nouveauté, enfin, pour la nouveauté en elle-même, en fait.
Oui, mais cette marché de la nouveauté ne peut concerner que ceux qui ont un pouvoir d'achat.
Oui, bien sûr.
Donc ça se dirige en premier lieu sur les Américains, les Européens, et après les restes des pays émergents.
Non, d'accord, vous m'avez convaincu. La technique, comment se programme une obsolescence? C'est pas évident. Ça se trouve, c'est plus facile de programmer son inverse que l'obsolescence elle-même. Laissez-moi terminer, Maxime. Mais je me dis naïvement que construire un produit durable qui dure, qui marche longtemps, me semble plus facile à réaliser que de me dire voilà, normalement, ce que j'ai fait là devrait tenir 6 ans et pas plus. Vous comprenez le sens de la question?
Bien sûr.
Je peux répondre?
Vous devez.
Pour les télévisions, par exemple, c'est très simple. Vous avez deux pièces. Vous avez des transistors, qui sont des éléments qui produisent énormément de chaleur, qui sont vissés sur des plaques en ferraille pour les refroidir. Et vous avez un autre composant qui s'appelle un condensateur. Les condensateurs ne supportent pas la chaleur. Ça veut dire que s'ils ont une durée de vie, disons, de 10 000 heures, par exemple, vous les mettez à près d'une source de chaleur, vous divisez par 10 leur durée de vie. Voilà comment est-ce qu'ils y arrivent. Et ils étudient le schéma électrique, donc de la plaque, du circuit, en fonction de ça, pour faire exprès que les condensateurs claquent.
Mais ma grand-mère a un réfrigérateur Bendix qu'elle a acheté en 1966 et il fonctionne encore.
Ah ben, bah ouais, mais ça c'était à l'époque.
Non, parce qu'il y a Charles, un éditeur assez désagréable, là, qui vous estimez que vous êtes le seul. Combien ne peuvent renouveler aucun appareil? L'obsolescence programmée existe depuis la nuit des temps.
Non,
c'est
non,
faux.
Non,
la nuit des temps, oui, bien sûr. Oui.
Non, non. Non, mais regardez par exemple sur les iPhones. Moi, j'ai un vieil iPhone, il a plus de 10 ans. Et ben, toutes les applications, les nouvelles, je ne peux pas les télécharger.
Oui, j'ai le même problème.
Voilà,
mais j'ai eu le problème avec l'ancien.
Voilà, donc il vous pousse vers la sortie, là. Voilà.
Vraiment.
Clairement.
Justement, ce qui explique aussi peut-être l'obsolescence programmée, est-ce que ce n'est pas l'absence d'innovation majeure? C'est-à-dire qu'on passe de palier en palier, et entre chaque palier, c'est-à-dire qu'il faut bien vendre, produire de la richesse. Donc on fait de l'obsolescence programmée, on crée de nouvelles modes, etc. Mais est-ce que ce n'est pas l'absence d'innovation en soi qui explique ça aussi, ce besoin de consommer, de renouveler de manière régulière les appareils?
Je suis pas sûr parce qu'en fait moi qui je pense que on l'a peut-être, vous étiez un peu trop jeune, mais on l'a, nous trois avec Arash et Yann, on l'a connu cette
innovation. Il est né en 96, Victor.
Bah voilà, donc il était plus, parce que nous on a vécu une vraie innovation de rupture, c'est l'arrivée des téléphones portables qui a changé notre vie.
Ah oui.
Et ce qui est très étrange, Victor, excuse-moi, c'est que quand vous regardez les films de science-fiction des années 60, ils avaient prévu qu'on puisse, comme dans Fahrenheit 451, qu'on puisse parler à quelqu'un sur un écran. Ça, ils avaient prévu. Ouais. Ils avaient tout prévu. Sauf le fait qu'on puisse se promener avec un téléphone.
Ouais.
C'est marrant.
Vers l'écriture, il parle.
Non, mais l'écran et tout ça, c'était pas un problème. Mais se promener avec le téléphone, ça, c'était personne n'y avait pensé.
Ouais. Et je me souviens, là, c'est une innovation de rupture énorme.
Oui.
Parce qu'on pouvait. Jess
peut toujours intervenir, bien sûr.
On pouvait envoyer des SMS. Enfin, vous vous souvenez quand. Enfin, là, il est un peu tard, on peut raconter la vie avant. Mais avant, on sortait en boîte de nuit, on rencontrait quelqu'un, on faisait comment? Personne ne donnait son numéro de maison.
Vous en parlez dans votre dictionnaire de ça.
Ouais, personne ne donnait son numéro de maison. On te donnait rendez-vous place Saint-Michel demain à 16h.
Si tu venais pas ou tu venais 5 minutes en retard, ton rendez-vous
était fini.
Ah oui. On pensait que tu avais posé un lapin.
Ah voilà. Oui. Alors que maintenant.
Et
voilà.
D'ailleurs, non mais je rebondis là-dessus, c'est que du coup aussi, on était fiable. Quand tu disais je viens, t'annulais pas en disant finalement je peux pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on donne un rendez-vous, c'est une option de rendez-vous qu'on donne. Parce que l'autre a la latitude d'annuler le rendez-vous.
Tout à fait.
Et donc ça change le réel.
Bien sûr.
Je peux intervenir.
Bien sûr.
Également pour les contrats d'ailleurs.
Oui, je ne savais plus que j'étais à l'antenne. C'est
pas enfin, on vous largue pas comme ça dans la nature.
Oh, j'avais peur. Oui, en temps réel comme ça. Oui, le téléphone, l'informatique crée des utilités supplémentaires. C'est-à-dire, il y a une injonction à réagir en temps réel aujourd'hui. Mais au-delà de ça, je voulais soulever le problème de l'informatique. Donc l'informatique en général, via les PC, et aujourd'hui notamment via les téléphones portables, on nous vend des choses hyper compliquées. C'est-à-dire qu'au début, ça a l'air super facile, on vous parle en français commun, on va dire, mais dès qu'il y a un problème, dès que ça bug, pour le dire comme ça, ben vous allez avoir des notices d'abord en anglais, tout le monde parle anglais, mais surtout un langage technique.
Ah, il a raison,
si vous
attendez,
n'êtes pas formé à l'informatique, vous pouvez rien faire.
Vous avez raison, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose qui est très juste, c'est que les interfaces, etc., c'est extrêmement simple d'utilisation quand il n'y a pas de problème. Alors là, tout va bien dans le meilleur des mondes. En revanche, au premier problème qu'on a, il y a un gouffre qui s'ouvre entre la facilité d'utilisation quand tout va bien et la difficulté de réparation quand tout va mal.
Bien sûr.
Non, mais ce qui est l'impossibilité même, pour le commun des mortels.
L'impossibilité,
Il y a un prix Nobel d'économie qui avait dit les résultats d'Internet... Internet, vous les voyez partout sauf dans les chiffres. Ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'on voit, on a tous.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on a tous, on utilise tous Internet, on nous raconte tous que c'est de l'innovation, que c'est super, mais dans les chiffres de productivité et tout, on voit pas grand-chose en fait. Il y a même beaucoup, mais on voit pas. Mais c'est vrai. Donc Internet est partout, sauf dans les chiffres.
Tu n'as jamais fait cette remarque?
Ouais. Et la réalité, moi, je vois, c'est ça a été même, il y a eu beaucoup d'effets négatifs. Par exemple, aujourd'hui, votre assureur.
Ça me rappelle une artiste qui disait de Berlin, parce que je dis la même chose de ce que vous dites sur Internet. À Berlin. Tout s'y passe, mais rien n'en sort.
Non, mais c'est ça. Et vous regardez aujourd'hui, maintenant, votre assureur, Internet, en fait, il n'y a plus d'assureur. Quoi. C'est vous qui faites tout. Tu lui envoies les photos,
la banque
tu dois
aussi,
tout remplir. Ouais. Ouais, c'est toi qui fais tout et lui, il te dit juste, il manque telle fiche, je ne peux pas. Alors, c'est quand même hallucinant. Quoi. La charge de travail était reportée sur l'individu plutôt que sur les entreprises.
Jess, Maxime, autre chose?
Moi, oui.
Oui, je vous écoute, Jess.
Je peux?
Non, c'est Maxime, oui, bien sûr. Oui,
je demande quand même, parce que comme je suis bavard.
Oui.
Alors, tout ce qu'on a dit là sur l'obsolescence programmée, sur tout ce qui a été dit dans l'émission également, sur l'état de l'économie actuelle, le privé, le public, etc. En réfléchissant, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que pour s'occuper en synergie du chômage, de l'économie et de l'écologie, qu'il ne faut pas oublier non plus, j'avais d'ailleurs écrit un rapport de 70 pages sur ce sujet, personne n'y comprenait rien parce qu'ils étaient très cons. Forcément, c'était des politiques. Hein. Bon, on ne leur demande pas de penser, on leur demande d'agir. Il devient pour moi absolument impératif de passer d'une économie de production, d'importation, d'exportation complètement folle, avec évidemment l'obsolescence programmée, à une économie de reconditionnement. Je ne dis pas de recyclage, je dis de reconditionnement. Et j'écrivais que il y a 6 ans que cette transition se ferait dans tous les cas, soit en douceur, si on décidait de la faire dès maintenant, soit par la nécessité absolue, par l'envol des prix des matières premières, la raréfaction des terres rares d'ailleurs qui sont récoltées dans des mines sur le sang et la sueur des Africains, n'oublions pas, cette économie, à mon avis, est vouée à mourir. Et qui plus est, elle fait mourir. Alors le reconditionnement, comment ça marcherait? Selon moi, déjà en expérience pilote, ça pourrait très bien se faire en Ile-de-France, excentré par exemple dans les Yvelines où il y a des terrains, et on commence à reconditionner 3, 4, 5 modèles précis, définis avant, de voitures, par exemple. Et on réindustrialise et on recycle toutes les modèles X. Et on les revend avec par exemple, trois gammes de produits.
Ouais. L'économie circulaire, c'est la grosse berline.
Ouais. Maxime, je suis obligé de lancer une publicité. Maxime, je suis obligé de lancer une publicité de 1977. À tout de suite.
Allez.
Ça grogne près de Saint-Quentin en Yvelines.
Je sais pourquoi, moi.
Ça trépigne à côté de Flins.
Je sais pourquoi, moi.
Ça s'énerve à Paris, Masséna et Auteuil.
Ce sont les soldes à Euromarché.
Les soldes à Euromarché ne durent que jusqu'au 26 février, alors tout le monde veut y aller.
Pour profiter des prix sur des jupes, des pulls, des manteaux, des robes, des pantalons.
À pied, à cheval, en voiture, les soldes d'Euromarché, dépêchez-vous d'en profiter.
Euromarché, une nouvelle race de magasin.
Antenne libre par Yann Moix sur Europe 1.
Nous saluons tous nos auditeurs qui habitent en 1977. Ils sont encore nombreux en 1977. Voilà, c'est des gens qui ne connaîtront jamais 78, qui ne connaîtront plus jamais 76. Mais enfin, c'est un pays, l'année 1977. Hein, comme, voilà. Donc, de temps en temps, on salue les habitants de cet espace-temps. Nous vous embrassons et vous n'avez rien à perdre. 78, il y a plein de trucs très désagréables. Restez bien au chaud dans votre année 77. Et à très vite, mes amis. Vous êtes un peu prisonniers, mais on l'est tous. Vous êtes prisonniers du temps, on l'est tous aussi à notre manière. Nous, on a trop de liberté, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Vous avez l'année 77 à vie devant vous. C'est déjà ça de gagner. Et puis, vous pouvez voyager dans l'espace. Maxime.
Donc, cette industrie du reconditionnement, dans un premier temps, ça doit se faire de façon loco-régionale. Ça réindustrialise, ça crée de l'emploi, donc ça veut dire moins de chômeurs, moins de dépenses. Pour l'État. Et on commence, d'après moi, par l'automobile. Mais ça peut s'étendre ensuite aux biens, on va dire, informatiques au sens large, du téléphone portable à l'ordi fixe, sur des modèles au départ bien précis. Et on les revend selon les gammes à des prix fixes avec une garantie équivalente constructeur. Ça veut dire qu'on remet en service des objets qui, sinon, auraient été partiellement, détruit évidemment, mais partiellement recyclé, et puis le reste qui n'est pas recyclable, on le stocke, on l'enterre, bref, on se débarrasse, on fout la poussière sous le tapis. Alors, on me dit, mais enfin, ce n'est pas possible. Ben, si, déjà, techniquement et intellectuellement, c'est parfaitement envisageable, et ça diminue.
Techniquement et intellectuellement, il ne reste plus que 3 minutes d'émission, je dis juste comme ça.
Il va falloir faire vite. Et je soumets cette idée au plateau. Donc,
c'est une bonne idée.
Je suis idiot, j'ai raison, je ne sais pas.
Si, c'est une bonne idée. De reconditionner, économie circulaire, c'est quand même quelque chose de bien. Non,
oui.
C'est très bien. C'est une très bonne idée.
Mais est-ce que, d'après vous, ça peut se faire, effectivement, de façon loco-régionale? C'est-à-dire pas seulement dans un petit quartier, des petits trucs, quoi. C'est-à-dire vraiment quelque chose de sérieux.
locaux régionaux, moi je pense que si ça se faisait, ça devrait quand même être un peu planifié d'en haut, pour que les besoins soient créés dans une région et échangés dans une autre, et ainsi de suite. Et... Mais je pense que ça restera utopique, même si c'est une solution.
Merci beaucoup Maxime. Comme il ne reste plus beaucoup de temps, je vais poser... Merci et à très vite. J'espère que vous nous ferez un jour l'amitié de venir en vrai. Puisque vous êtes parti, vous êtes quasiment hors les murs, mais vous êtes faites quasiment partie de l'équipe. J'ai une question à poser à Thomas pour terminer. Ça va être difficile de répondre en si peu de temps. Quel est aujourd'hui l'état de la France ? Objectivement,
en fait,
si...
objectivement, moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'il y a, pour une partie de la population, leur patrimoine, c'est pas un patrimoine financier, c'est le service public, c'est le patrimoine du pauvre. Et là, sur le service public, l'éducation, la petite enfance, l'hôpital, l'avenir n'est pas très radieux. Et c'est ça qui fait peur. Et là, on voit bien les débats aujourd'hui. Pourquoi les Français sont opposés à 60% à la réforme des retraites, y compris même des jeunes ? C'est qu'ils voient bien qu'on demande de faire des économies toujours aux mêmes personnes, aux retraités. Avant, c'était l'assurance chômage, aux chômeurs, à l'hôpital, à la petite enfance, à l'éducation. Et donc, il y a un sentiment d'effondrement, je pense. On a été une nation qui était centralisée, même par la droite, De Gaulle, pilotée, des services publics, un État social, un État stratège.
Et là, on est livré à nous-mêmes.
Et là, on est livré à nous-mêmes dans un monde, en fait, où il y a... où c'est sans foi ni loi. Et on a cette impression donc d'une forme d'effondrement.
Thomas, c'est quoi les économistes atterrés en 8 secondes ?
En 8 secondes, c'est une association qui a été montée après la crise de 2008, au moment où des politiques d'austérité ont été appliquées en Europe. Et c'est les économistes qui ont dit on va créer une deuxième crise, une crise européenne. Et c'est ce qui est arrivé.
D'accord. Eh bien, merci à tous. Je rappelle que nous étions en direct sur Europe 1 avec la présence de Victor Dumiot, rédacteur en chef de la revue Année Zéro, avec Maître Doran Barsch, qui était là en amitié et aussi qui s'occupe de sa ville de Courbevoie, puisqu'il est adjoint au maire, et avec Thomas Porcher, qui nous a fait l'amitié de venir, et dont le dictionnaire d'économie, mon dictionnaire d'économie, est pour moi une sorte de chef-d'œuvre de clarté et d'intelligence et de sagacité. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous, mon cher Thomas.
Merci
pour ce que vous êtes et merci pour vos éclairages. Je pense qu'ils auront intéressé tous nos auditeurs. Il est 1h sur Europe 1.